Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Reprise des combats ce matin entre l'armée et les groupes armés locaux contre les rebelles du M23. C'est notamment à Nyamubingwa dans le Massissi et vers Kikuku dans le Rutshuru. C'est depuis hier que la situation est volatile, notamment autour de Sake, rapporte des sources sur place. La chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa s'est dit indignée du traitement qu'elle qualifie de dégradant réservé au cardinal Fridolin Ambongo. En effet, les services aéroportuaires à l'aéroport de Ndjili avaient refusé hier l'accès au salon VIP au prélat catholique, pourtant détenteur d'un passeport diplomatique. Aucune réaction pour l'heure côté gouvernement congolais. Et puis, l'invité de ce midi, John Seah Kalunga, ministre provincial des infrastructures du Tanganyika, il revient sur les érosions qui menacent la prison centrale de Kalemie, ainsi que les difficultés pour financer les travaux contre ces érosions. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Les combats ont repris ce lundi matin entre les FARDC et les groupes armés locaux contre les rebelles du M23. C'est notamment dans le village Nyamubingwa, groupement de Mufunishanga, dans le territoire de Masisi et vers le nord de Kikuku, dans le territoire de Rutshuru. Selon des sources locales, depuis hier, la situation reste volatile, en particulier autour de Sake. Le récit de Bernardin Nyangi.
Dans le territoire de Masisi, ces affrontements se concentrent depuis tôt ce lundi autour de l'agglomération de Bweremana, chef-lieu de la chefferie de Baoundé, indique plusieurs sources locales. Elles précisent que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues toute la matinée, notamment sur les collines de Ndumba et Kiluku, près des notabilités de Kituva, Mahoma et village Chacha. Les rebelles du 1-23 auraient lancé l'attaque, selon nos sources, mais font face à une violente réplique de la part de l'armée congolaise et des combattants des groupes armés locaux. Ces combats reprennent dans cette zone après un autre épisode d'accrochage rapporté hier dimanche, toujours dans la matinée, autour de Sake. C'était précisément sur les collines Kiuli, Vunano et Kimoka. Certaines sources proches des groupes armés parlent de récupération par l'armée congolaise d'une position des rebelles sur ces collines. Par ailleurs, depuis 10h locales ce lundi, de fortes détonations d'armes lourdes et légères sont attendues au nord de Kikuku, chef-lieu de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Nos sources parlent de combats qui opposeraient les FARDC et groupes armés locaux aux rebelles du 1-23. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Les activités socio-économiques ont repris cet avant-midi de lundi dans le village de Turunga. C'est dans la périphérie nord de la ville de Goma, territoire de Nyiragongo. C'est après des manifestations populaires au lendemain d'un énième meurtre de civils attribué à un présumé militaire FARDC. Pendant ce temps, dans la ville de Goma, un appel à manifester contre la hausse de la criminalité, interdite pourtant par l'autorité urbaine, n'a été suivi d'aucun effet. Reportage de Bernardin Nyangi, rendu par Chris Mukand Matante.
C'est autour des 10h locales que la circulation a été rétablie et les activités commerciales ont rouvert après des barricades placées depuis 7h du matin par des jeunes sur les artères principales contestant un énième meurtre d'un civil par un présumé militaire FARDC. Des sources dans le Nyiragongo affirment que la police et les autorités locales se sont déployées pour conscientiser les jeunes manifestants à dégager la route. Pour la ville de Goma, les activités se sont normalement déroulées ce lundi. Le maire Haï, le commissaire supérieur principal Kapen Kaman Faustin, a par un communiqué officiel partagé hier dimanche interdit une marche planifiée pour ce lundi par quelques associations et mouvements citoyens au motif de la persistance de l'insécurité dans la ville. Pour rappel, un jeune homme a été tué par deux présumés militaires vers 19h locales hier dimanche à Turunga. Avant cela, le corps sans vie d'une femme de Goma, portant des signes d'étranglement, a été retrouvé toujours à Turunga samedi matin. Et pendant ce temps, une dizaine de personnes ont été tuées par des bandits armés dans la ville de Goma ces derniers jours. Les corps sans vie de ces victimes ont été trouvés dans plusieurs quartiers de la ville. Goma, Chris Mukand, Radio Okapi.
Et puis, quand nous entendons notre peuple parler de l'origine de nos souffrances sans fin, il nous dit globalement que tout ceci arrive parce que l'État congolais est mort et que nous, les gouvernés, sommes abandonnés à notre triste sort. C'est la déclaration des évêques et archevêques de la province ecclésiale de Bukavu qui regroupe les diocèses catholiques de Bukavu, Butembo Beni, Goma, Kasongo, Kindu et Uvira. Ils l'ont dit ce week-end à Butembo au Nord Kivu où s'est tenue du 8 au 14 avril l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu. Dans leur déclaration finale, les prélats catholiques disent que l'insécurité est devenue endémique dans la partie est du pays, avec son cortège de tueries, y compris en pleine journée, de massacres et d'enlèvements des paisibles citoyens dans plusieurs villes et villages de leurs entités. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Dans leur message final, les évêques dénoncent les tueries et les enlèvements des civils, l'encerclement de la ville de Goma par les M23 soutenus par les Rwanda, la paralysie de l'économie par une stratégie d'isolement et l'asphyxie des grandes et petites agglomérations, ainsi que l'abandon par les FRDC de leur position au front et de la logistique des guerres aux rebelles du M23 au Nord Kivu. Les prélats catholiques dénoncent également la cohabitation, voire connivence des miliciens Maïmaï Malaïka avec les FRDC et la PNC, ou encore l'existence des tribunaux forfuites, des milices à côté des parquets et tribunaux étatiques à Kasongo, dans les Maniema. Selon eux, cette situation est causée, entre autres, par les faibles exercices des fonctions régaliennes de l'État et le manque de volonté politique. Les évêques recommandent au chef de l'État la mise en place rapide du gouvernement composé de personnes compétentes et honnêtes pour la gestion des affaires publiques au profit du peuple. À la communauté internationale, les prélats catholiques lancent un message fort. La RDC n'est ni à vendre ni à exploiter anarchiquement. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, 7 personnes, dont un rebelle ADF, ont été tuées samedi lors des affrontements entre les FARDC et ce groupe armé à Ndalia, environ 100 km au sud-ouest de Bunia, dans le territoire d'Irumu. Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que les forces loyalistes ont réussi à libérer certains otages des mains de l'ennemi. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, encourage l'armée à poursuivre ses opérations en vue de démanteler ces rebelles qui ont intensifié les exactions contre les civils dans la région. Toujours en Ituri, un convoi humanitaire est tombé dans une embuscade des miliciens de la Codeco. C'était hier vers Fataki, sur la route nationale numéro 27, dans le territoire de Djougou. Les membres de l'équipage ont été menacés de mort, puis dépouillés de leurs biens, déclarent des sources de sécurité. Selon la société civile, la recrudescence de l'insécurité par des groupes armés a réduit sensiblement l'intervention des humanitaires au détriment des milliers de sinistrés de guerre dans ce territoire. D'autres ont suspendu leurs activités ou délocaliser leur base. Isaac Remoyope nous fait le point.
Ces convois des humanitaires revenaient de certaines localités du territoire de Djougou pour faire l'identification des déplacés dans le cadre d'un projet d'assistance. Ils sont tombés dans l'embuscade d'un groupe de miliciens de la Codeco sur les tronçons Gokalou-Fataki sur la route nationale numéro 27. Ces assaillants les ont menacés de mort et puis les ont dépouillés des téléphones et de l'argent. Selon la société civile locale, les exactions des groupes armés contre les humanitaires sont récurrentes. Elle cite notamment les incendies en janvier d'un véhicule des humanitaires transportant des vivres, mais aussi les sabotages de leurs actions dans les pillages en mars dernier de l'hôpital de Drodro et l'attaque des sites des déplacés. Ces regains de sécurité observés depuis le début de cette année obligent certaines organisations internationales, dont Action contre la faim et Médecins sans frontières, à suspendre leurs activités dans certaines entités du territoire de Djougou. D'autres ONG ont délocalisé leurs bureaux, notamment dans les territoires voisins de Mahagi ou dans d'autres centres de Djougou qui sont sécurisés, ce qui aggrave la situation humanitaire des milliers de déplacés qui étaient déjà préoccupantes faute d'assistance et d'accès aux champs occupés par des miliciens. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa s'est dit indignée du traitement qu'elle qualifie de dégradant réservé au cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Les faits se sont passés hier dimanche à l'aéroport international de Njili, où les services aéroportuaires ont refusé l'accès au salon VIP au prélat catholique. Information rapportée par des sources sur place à l'aéroport de Njili. Le point avec Cynthia Bachizi.
Le cardinal Mbongo se rendait à Rome ce dimanche 14 avril à midi. Étant membre du C9, le conseil de 9 cardinaux qui assistent le pape François dans son projet de réforme de l'Église. C'est alors que les services officiels aéroportuaires lui ont réservé un traitement dégradant, précise la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa dans son communiqué. Des sources sur place à Njili évoquent le fait que l'accès au salon VIP de l'aéroport a été refusé au prélat catholique qui a été conduit dans la salle d'attente réservée aux passagers ordinaires. Situation qui a indigné beaucoup de témoins qui ont vécu la scène. Aujourd'hui, l'Église catholique ne comprend pas cette attitude des services officiels, d'autant plus que le cardinal est détenteur d'un passeport diplomatique. Un statut reconnu à tous les cardinaux, même sur le plan international, précise encore le communiqué de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa. Sur le plan politique, la coalition Lamuka de Martin Fayulu a été la première force politique à réagir. Elle a dénoncé cet incident présenté comme un manque de respect à l'endroit du cardinal Fridolin Mbongo et met en garde contre une dérive dictatoriale dans le pays. Aucune réaction pour l'heure du côté du gouvernement congolais.
Dans l'actualité aussi, tractation autour de l'installation des animateurs des institutions de Kinshasa. L'Union sacrée dévoile ses tickets pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de la capitale. Élection prévue pour le jeudi 18 avril prochain. Au cours d'une réunion hier tard dans la nuit, le secrétaire général de l'UDPS et membre du présidium de l'Union sacrée a mis en garde les élus de Kinshasa face aux tentatives de corruption au cours des prochaines élections. Il ressort du consensus trouvé que le ticket de l'Union sacrée pour l'élection des membres du bureau définitif est composé de Lévi Mbuta Sangupaba de 4AC, candidat président, Germain Chinyama de l'ANB, vice-président, André Kongolo de la FDCA, rapporteur, Clovis Samba du MLC, rapporteur adjoint, et Socrate Mubengai de l'UDPS, questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Rendons-nous dans la province du Kasaï. Une trentaine d'ONG de la société civile, des femmes, ont été outillées sur les notions liées au leadership féminin et organisationnel. Cette session des deux jours, clôturée le week-end, a été organisée par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral avec l'appui du ACR dans le cadre du projet de prévention et amélioration de la qualité des réponses sur les violences basées sur le genre. À en croire la directrice pays de cette ONG, le souci est d'interpeller les femmes et les pousser à initier les actions sur leur promotion pour développer leur leadership. Les propos de Nathalie Kambala ont été recueillis par François Kadima.
Vous savez que les femmes jouent d'abord un rôle très important dans la communauté, mais malheureusement, le travail est ignoré et parfois minimisé par nous-mêmes, la communauté. Voilà pourquoi d'ailleurs que les femmes et les filles ne participent activement aux instances de prise des décisions. Il y a des inégalités, d'autres formes de discrimination dont elles sont victimes et ne peuvent pas vraiment être très efficaces sur terrain. Voilà pourquoi nous avons pensé à organiser cet atelier pour interpeller d'abord la conscience de femmes sur leurs droits et aussi comment elles peuvent parvenir à initier quelques activités visant à leur promotion du leadership féminin, même d'autres thématiques dans leur milieu respectif.
Province du Maniema, début ce week-end du concours national des jeunes sur le civisme. Cette activité culturelle a réuni plus de 1000 jeunes, filles et garçons, organisée par le club d'entrepreneurs et managers du Maniema. L'objectif est de susciter l'esprit patriotique et revaloriser le civisme congolais chez les jeunes sur toute l'étendue du pays. Maître Joseph Kongolo, président du club d'entrepreneurs et manager du Maniema, explique au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons lancé les activités du concours national des jeunes sur le civisme depuis le 30 mars dernier. Et aujourd'hui, c'était le jour du concours proprement dit. Tous les candidats étaient venus pour répondre au rendez-vous. C'est-à-dire, ils étaient en face des items qui contenaient les questions liées sensiblement au civisme congolais. Et nous avons atteint cet objectif par la grâce de Dieu et c'était bien passé. Les participants, on ne les a pas trop qualifiés en termes d'élèves, mais nous avons qualifié qualifier beaucoup plus en termes de jeunes candidats. Donc nous avons utilisé les écoles comme un moyen par lequel nous devrions passer pour atteindre notre cible qui était la jeunesse, dont l'âge variait entre 13 et 20 ans. Les filles étaient plus nombreuses que les garçons. Ça, c'était pour nous une grande satisfaction. L'objectif pour nous, c'est d'abord la révalorisation du civisme congolais. Parce que vous savez, aujourd'hui, la cellule de l'esprit patriotique n'existe plus. Pour que cet état marche, il nous faut revoir notre civisme. C'est pour cette raison que nous avons utilisé cette stratégie de faire un concours.
Actualité internationale. La Russie cherche à étendre son influence en Afrique, à commencer par la Libye, sous la houlette du général Andrei Andrianov, qui a pris les rênes du groupe Wagner. La Libye est devenue vulnérable à l'influence étrangère en raison des combats incessants, des rivalités politiques, du manque de démocratie et de la stagnation qui frappe le pays depuis le soulèvement de 2011, qui a permis au groupe russe Wagner de s'implanter dans ce pays depuis 2018.
L'invité.
Il s'agit de John Sea Kalunga, ministre provincial des infrastructures du Tanganyika. Il revient sur les érosions qui menacent la prison centrale de Kalemie. Il évoque aussi les difficultés pour financer les travaux contre ces érosions. John Sea Kalunga est avec Paulin Munanga.
Monsieur le ministre John Sea Kalunga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Il y a un sérieux problème qui se passe au niveau de la prison centrale de Kalemie. Cette prison est menacée par une tête d'érosion qui s'avance dangereusement sur les murs de clôture de la prison. Et pouvez-vous nous en parler?
Certainement, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. Mais nous, en tant que ministre des infrastructures, nous avions fait le travail qui est le nôtre en demandant à ce que les moyens soient mis à notre disposition pour lutter contre cette érosion. Ça veut dire que nous avions à l'époque requéri l'expertise de l'Office des routes pour faire les évaluations. Bon, Office des routes comme OVD d'ailleurs à l'époque, mais comme il était question d'intervenir pratiquement sur ces ponts, avec la petite expérience qu'on a eue dans la province avec l'Office des routes, on s'est dit bon, il faut confier le travail à l'Office des routes qui a aussi fait ces évaluations. Que nous avons déposé acquis des droits, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons la suite pour que le travail soit fait. Mais malheureusement, plus on attend, plus les dégradations deviennent importantes et moins le devis qu'on a déposé devient obsolète. Donc, il faut le réactualiser au stade actuel.
Sur le plan technique, pouvez-vous un peu nous décrire ce qui se passe réellement là à côté de la prison?
Premièrement, il y a eu désensablement du talus et puis il y a eu effondrement de la culée du pont qui a provoqué le départ de tous les talus qui étaient à côté pour protéger n'est-ce pas l'ouvrage, et ça a coupé pratiquement la voie d'accès de ce pont à tel point que il était pratiquement impossible. L'ouvrage lui-même il tenait encore, mais il fallait réparer les voies d'accès et créer un mur de soutènement du talus pour éviter que l'érosion ne puisse entamer aussi bien la fosse septique qui nous avait été construite par la MONUSCO, mais aussi les murs de clôture que nous avons réparé. D'ailleurs, le gouvernement avait réparé ces murs de clôture parce que ils menaçaient de s'effondrer. Nous l'avions réparé. Alors il fallait faire tous ces travaux sur une longueur de près de 55 à 60 mètres de murs de un mur de protection pour contenir les talus. Et aussi, il fallait faire le curage de la rivière Kalemie parce qu'il y a des éléments halogènes qui gênent la circulation libre de l'eau. Mais malheureusement, tout cela nous a été difficile à cause de manque de moyens. Le problème, certes, il n'a pas commencé aujourd'hui, mais je voudrais vous rappeler que même la fosse septique, elle est terminée pratiquement en 2022. Les travaux étaient faits par la MONUSCO. Nous avions observé les problèmes qui étaient les plus urgents en son temps. C'était une partie du mur de clôture de la prison qui avait des fissures et qui menaçait pratiquement de tomber. Nous avons réparé ces murs. Au mois, je pense, octobre-novembre, nous avions prévenu pour la nécessité de curer cette rivière et contenir, disons, la rivière dans son lit. Bon, voilà, les moyens n'étaient pas mis à notre disposition. Quand il y a eu les premiers dégâts des premières pluies, nous avons prévenu prévenu également pour que nous puissions réparer, notamment en réparant la culée et remettre les remblais pour contenir les talus. Bon, les moyens n'étaient pas venus. Plus vous ne faites rien, plus les dégâts deviennent importants. Et malheureusement, c'est le cas dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Maintenant, qu'est-ce qu'on attend encore pour commencer avec les travaux?
Bon, commencer les travaux nécessite de l'argent. Le gouvernement est sous contrôle de l'inspection générale des finances. Généralement, c'est à cela que les choses bloquent un peu. L'établissement public qui a été choisi pour élaborer les travaux avait fait son devis, qui est aujourd'hui dépassé parce que le devis ne prenait pas en compte la construction pratiquement d'un pont. Parce que le pont qui était là, il était encore en état, mais après les dernières pluies, le pont s'est affaissé d'un côté, ce qui fait qu'il faut le détruire pour jeter carrément un autre pont. Enfin, ça va nécessiter beaucoup de moyens plus que ce qu'on a envisagé.
Que craint l'IGF d'après vous par rapport au fait qu'il devrait autoriser la sortie des fonds pour entamer les travaux?
Et bon, c'est une question qui devait leur être posée. Ils sont le mieux habilités à donner la meilleure des réponses. Mais moi, je pense que nous sommes un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Peut-être qu'ils suspectent que nous risquons de prendre l'argent et partir, mais c'est irresponsable ça. Mais dans l'expédition des affaires courantes, il y a les urgences aussi qu'il faut assurer.
Monsieur le ministre John Seakalunga, je vous remercie.
Le ministre provincial des infrastructures du Tanganyika répondait aux questions de Paulin Munanga. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Martin Sebujangwe, à la mise en onde Mimi Kindo. Merci d'avoir été des nôtres.